Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à la conférence au panel, comment on appelait ça?
Conférence. Ouais.
Ok. On est en train de se setuper au niveau de timing. C'est qui?
On va se donner une minute encore.
Tout le monde va bien? Vous êtes tous contents d'être ici après 3 ans d'absence? On peut-tu le sentir un peu plus?
Une forme des applaudissements, j'en crois pas. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Hein.
C'est pas des applaudissements, c'est de la joie, de la force. On veut sentir la force à travers les fans dans la salle. C'est ça qui est important.
T'as lu le sujet qu'on avait de cette année ou pas, là?
tu le sais, c'est quoi mon surnom? Hein?
Les gens connaissent le mien. Alors affiche le tien.
Mais je vais l'afficher, ça sera ouais, le moment venu.
C'est 40 minutes où on va faire ça, ne vous inquiétez pas. On va parler Star Wars un moment.
Je vous le dis tout de suite, à la fin, quittez pas trop rapidement parce qu'on a des cadeaux pour certains d'entre vous. Donc, courez pas trop vite. Là, ou si vous sortez de la salle, attendez-nous à l'extérieur parce qu'on a des petites choses qui peuvent vous intéresser. Je dis ça comme ça.
Parfait, messieurs. Donc, on va starter ça. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à la conférence de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans. Comme mes collègues ont déjà dit, c'est vraiment un bonheur de vous retrouver après... Ben, ça fait 2 ans, là, dans le fond, la dernière conférence comme ça, ici.
3 ans.
Dans une autre salle à l'autre bout. Je ne sais pas si vous étiez présents. Ceux qui ne connaîtraient pas du tout Star Wars en direct, petit topo rapide, là, un podcast, comme on dit, depuis plus de 20 ans, donc depuis 2021, ce qui fait de nous le podcast Star Wars le plus vieux et le plus pérenne au monde. Même qu'à l'époque, évidemment, c'était pas podcast, là, c'était bien avant YouTube, bien avant le concept de podcast. C'était plus émission.
Internet.
C'est ça. Seb qui était déjà présent à l'époque.
Il y a une vidéo sur YouTube où vous pouvez voir les anciens matériels avec un micro
oui,
sur
non,
un
téléphone. Non.
Ouais.
Là, je regarde et je vois qu'il y a des enfants dans la salle qui doivent avoir l'option cumulée de quoi je parle. C'est extraordinaire.
Un téléphone.
Oui, et pour rappel, ben, dans le fond, aujourd'hui, on voulait jaser avec vous de tout ce qui est évolution du fandom, hein, parce que ça bouge beaucoup. On a quand même beaucoup de contenu ces temps-ci, les séries télé, tout ça. Il y a du négatif aussi qui circule pas mal sur plusieurs aspects du fandom. Donc, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Rapidement, JF, peux-tu nous faire un petit rappel au niveau intergénérationnel?
Oui, bien, on le sait, hein, Star Wars, c'est ça existe depuis plus de 40 ans, donc ça touche plusieurs générations. Puis chacune des générations ne recherche peut-être pas nécessairement les mêmes choses dans Star Wars. Hein. On peut le voir comme les plus vieux fans comme nous qui ont connu la trilogie originale. Ben nous, en ce moment, c'est plus le côté nostalgique. Hein. C'est avec ça que Disney touche. Les plus jeunes, ben, ils vont rechercher autre chose. Donc, ceux qui ont connu Star Wars à travers les séries télévisées ou quoi que ce soit, ben, eux, ils recherchent un autre feeling. Si je prends l'exemple de mes filles, ben, ma plus jeune, elle, exemple, la série Obi-Wan, ben, elle, ce qu'elle aimait voir, ben, c'était Léa, les aventures de Léa.
La Léa,
tout. Tandis que moi, en tant que vieux fan, ben, c'était de voir Anakin puis Obi-Wan, puis de pleurer quand Obi-Wan voit Anakin, puis qui, tu sais, là. Ah, fait que c'est ça, tu sais, on est rendu à cette étape-là que, vu que ça fait plus de, comme je disais, plus de 40 ans, ben ça touche plusieurs personnes différemment.
Exact, et puis, ben on va starter tout de suite avec tout ce qui est point. Moi, je me rends compte que j'ai oublié de vous remercier, donc merci à tout le monde de vous être déplacé ce matin. C'est vraiment très apprécié pour nous. On a l'habitude, en fait, sur Internet, évidemment, les gens participent en direct à nos émissions, mais n'empêche hein, le contact avec le monde réel. Fait que merci à tous. Une belle main d'applaudissements, en fait, là, pour tout le monde. C'est vraiment apprécié. Fait que premier point qu'on entend beaucoup parler, on en a entendu beaucoup parler au mois de janvier à cause d'une certaine série télé qui n'en était pas une, selon moi. Donc, peux-tu nous parler un peu des déceptions, Julien, qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci?
Bon, je vais faire court, hein, parce qu'on n'a qu'une demi-heure à peu près. Hein, donc, si je... En fait, ce qui s'est passé, c'est que à tous ceux qui étaient fans de Star Wars à l'époque où Disney a arraché la fameuse annonce, je pense qu'on a tous... on se souvient, moi je me souviens d'où j'étais quand j'ai appris que Disney avait acheté Star Wars. Et sur le principe, en fait, c'était pas mal la meilleure personne, enfin le meilleur groupe qui pouvait acheter Star Wars. On se retrouvait avec un groupe mondial, monstrueux, qui avait les moyens, bon, on va dire illimités, hein, si rien n'est illimité dans le monde, mais on va dire les moyens illimités. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec Star Wars et ils ont fait ce qu'ils voulaient, effectivement. C'est peut-être pas ce qu'on avait prévu au plan, slow match. Donc après, je vous laisserai juger vous-même de ce que vous pensez de ce qu'on appelle la postlogie, les épisodes 7, 8, 9. Je voudrais pas non plus qu'on rentre dans le machine total parce que moi, un de mes Star Wars préférés, c'est l'épisode 1. C'est celui que j'ai le plus vu, voilà. Donc là déjà, j'ai perdu toute crédibilité auprès des vieux fans, je le sais. Mais pendant très longtemps, en fait, c'est le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma, c'est la première fois que je prenais la grande campagne médiatique. Et finalement, les épisodes 7, 8, 9, ça a été pareil pour une nouvelle génération. Je pense que dans quelques années, il y a des gens qui vont... Bon, peut-être pas, tu me dis, je sais pas. Mais en tout cas, les épisodes 7, 8, 9, c'est la trilogie pour une certaine génération. Après, Disney a sorti son fameux Disney+. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Netflix de Disney. Ouais, c'est... je trouvais que Disneyflix était plus cool, mais ils ont appelé ça Disney+. Vous savez, c'est le truc qui avait augmenté déjà trois fois de salaire, le prix. Là. Mm-hmm. Ouais, et on prend les taxes en plus maintenant. Ils ont sorti, puis c'est leur plateforme idéale. Alors pourquoi c'est la plateforme idéale pour eux? C'est parce qu'on n'a aucune idée de combien ils font de vues, c'est eux qui ont les chiffres. Cela dit, c'est aussi un moyen pour eux de faire pas mal de séries, et ils l'ont fait. On a vu la série, on a eu entre autres Bad Batch, qui est une série animée. Notez que les séries animées, c'est un super moyen d'entrée pour les jeunes générations. On a eu une série Mandalorian qui, quand même, globalement, les gens ont plutôt apprécié. Je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu moins accroché, mais c'était quand même, a priori, globalement, en tout cas, l'effet général. On a eu ensuite une série Boba Fett. Boba Fett, voilà. Je vous laisserai juger. Je l'avoue que je ne suis pas un énorme fan de la série Boba Fett, pour plein de raisons. Puis là, récemment, on a eu la série Obi-Wan. Donc, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que ça nous donne du contenu Star Wars régulièrement. Donc, si jamais vous êtes déjà un membre de Star Wars, tenez bon, il vous reste un mois et demi à tenir pour avoir Endor. Est-ce que par contre à l'avenir on va encore avoir des films?
C'est ce qu'on commence à se demander, mais bon.
Bonne question. Est-ce qu'on va encore avoir des films selon vous Star Wars?
Effectivement, le projet de Rogue Squadron apparemment est retardé, donc là ça va peut-être être.
Alors moi je suis un grand passionné de jeux vidéo et j'ai appris depuis. 20 ans à peu près à arrêter de rêver des annonces, parce que ça c'est sûr, on vous annonce 50 000 trucs.
Ouais, mais dans l'industrie du jeu vidéo, t'es habitué de on vous l'annonce pour telle date et puis ça sort comme 2 ans et demi plus tard.
Ouais,
ou 15 ans, si tu prends Duck Nukem Forever. Mais c'est ça, c'est oui, alors on nous a annoncé je sais pas combien de films, là. Il y a du travail pour les 20 prochaines années pour Hollywood, mais ça reste que pour l'instant on n'a pas de date, aucun. On vient d'avoir il y a une grosse convention Star Wars qui a eu lieu là récemment. C'est là où il vient tout son stock qu'on va vous offrir après. Donc, je sais pas. Zéro annonce sur les films, rien du tout. On a eu un petit peu le jeu vidéo.
Qui est d'ailleurs justement le sujet principal que tu mentionnes, c'est la déception, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait potentiellement plus de conférences sur les projets qui viennent, puis des conférences vraiment individuelles, comme un panel au complet, une heure consacrée juste à Obi-Wan, avec Ewan, avec Aiden, pour parler de tout ça, puis on a eu 15 minutes. Dans un panel de 1h30, c'était une déception, littéralement. Puis c'est le problème qu'il y a avec les déceptions, surtout au niveau du fandom Star Wars, c'est que trop souvent, c'est nous-mêmes qui créons nos propres déceptions. Mm-hmm. Dans le sens qu'on va s'imaginer des choses qu'on voudrait voir ou qu'on aimerait voir, puis là, on se les partage, on les discute, puis là, on se montre ces idées-là, puis au final, Disney nous arrive avec quelque chose de complètement filonné. Et puis, ça sort, puis c'est complètement pas du tout ce qu'on s'attendait. Donc, on finit avec plusieurs déceptions là, sur plusieurs projets ou sur plusieurs façons d'aborder les, les choses qui viennent, comme les films, entre autres.
Ouais. Puis on est les bonnes personnes pour vous parler, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un trailer qui sortait, on faisait du image par image, puis on les présentait, et on faisait des théories. Ouais. Si vous voulez vous moquer de nous, regardez les épisodes de du trailer, de l'épisode 7, de l'épisode 8, etc. Il y a combien de théories qui étaient justes?
Ouais.
Trois.
Exact. Ben oui,
vous avez 2,5, on va dire, voilà. Ouais.
Mais vous le dites, c'est effectivement les attentes. C'est sûr qu'après, avec le temps, puis moi j'ai souvent donné cet exemple-là, Rogue One, pour moi, a été une grosse déception en salle à mon premier visionnement, alors que c'est mon film préféré, le Star Wars, aujourd'hui. Donc, c'est comme tu dis, effectivement, c'est les attentes qu'on se crée, puis c'est une déception que... Là, évidemment, on parle film télé, mais ça peut être un roman, comics, etc., mais dans le fond, au final, c'est ça, c'est souvent on est maître de, tu sais, on est responsable de nos propres malheurs.
Mais en même temps, Disney sont aussi très orchestrants là-dedans, mm-hmm. parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous montrent dans les bandes d'annonces,
ouais.
qui sont de la misdirection.
Ouais, ouais.
Donc, ils nous envoient vers une place, puis finalement, on se ramasse dans le film avec des scènes qui ont été tournées juste pour la bande-annonce.
Ouais, ça, on a eu beaucoup ça sur Rogue One, entre autres. Ouais, des scènes vraiment expressément tournées que pour les bandes-annonces, là, qui ne se retrouvaient pas du tout dans le film. Et là, dans le film, tu t'attends à voir ça. Là, c'est autre chose qui se passe. Fait que c'est sûr que ça te sort un petit peu aussi.
Ouais, ils nous ont fait ça avec l'épisode 9. Hein, le marketing. Dark Ray qui apparaît 15 secondes dans le film. Voilà, tout le monde était parti sur ça. Y est, on va avoir un truc profond et tout. Non,
ben, un autre exemple d'une excellente déception qui a été comme montée beaucoup par Disney, pas par les fans, c'est Capitaine Phasma, qui est un personnage qui était très iconique. Même sur StarWars.com, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ce personnage-là. Le personnage a été monté. Il y a eu un livre sur l'histoire du personnage, son background et compagnie, pour finalement que ça soit un personnage secondaire qui devienne notre personnage favori à moi et à Francis.
Ouais, exactement.
Ajax, yes! Captain Cardo. Mais c'est un personnage justement qui avait beaucoup de potentiel, puis que Disney, qui pourtant sont très forts pour pousser plusieurs agendas, comme Francis a tendance à en parler
pendant
nos émissions, ils ont un peu manqué le bateau avec ce personnage-là parce qu'ils auraient pu faire vraiment quelque chose d'incroyable, puis ils ont comme abandonné là, avec le retour de J.J. Abrams dans l'épisode 9. Mm-hmm. Donc, vraiment décevant là, de voir justement des personnages comme ça qui sont abandonnés là, au fil des narratifs.
Mais, tu sais, effectivement, JF parlait d'intergénérationnel tantôt. Ben ceux qui découvrent ça, pas nécessairement sur le moment, avec toutes les attentes du marketing, des bandes-annonces, tout ça, n'auront pas nécessairement ces effets-là. Ouais. De la même façon que si, par exemple, Julien, l'hérétique du groupe qui préfère l'épisode 1, mais c'est celui qui, ça a été son premier Star Wars au cinéma. Donc, à ce moment-là, quand tu as découvert la trilogie originale, ben c'est ça, tu n'avais pas... Ah, parce qu'il y avait des gens déçus.
Sur VHS. Je vais expliquer à vos enfants ce que c'est une VHS.
Ou une bêta dans le temps. Mais tu sais, c'est qu'il y a des gens à la sortie de l'Empire Contre-Attaque qui étaient déçus aussi. Il y a des gens à la sortie du Retour du Jedi qui étaient déçus aussi. Nous, évidemment, on a grandi avec ça à la télé. Ça jouait au moins 2-3 fois par année. Mais côté de déception, effectivement, ça va être œuvre par œuvre. C'est rare que quelqu'un va être déçu de la totalité de ce qui sort. On en arrive à notre autre point, quand ça devient vraiment de la désillusion, que les gens déconnectent carrément de leur passion Star Wars. Je ne sais pas si Jeff peut nous en parler un peu.
Oui, ben écoute, ça revient un peu à ce qu'on a parlé un peu plus tôt, des différences de génération. Nous autres, si on prend l'exemple de nous, les vieux fans, on s'attend à ce qu'avec la trilogie originale, la prélogie, on a vu comment l'épisode 3, c'était plus sombre, c'était plus... la série Clone Wars avec. T'sais, Clone Wars, ça a commencé comme une série vraiment pour enfants, puis c'est devenu vraiment là, un peu plus adulte. T'sais. Donc, on s'attend à ce que Star Wars suit notre évolution à nous autres. Nous autres, on vieillit, les goûts changent. Je veux dire, écoute, à Star, il y a tellement de multimédia, de médias qui est disponible, il y a tellement de produits disponibles, pas juste Star Wars, mais tu trouves Netflix, tu vas trouver une série que tu vas adorer, que ce soit Stranger Things, peu importe, les films Marvel, DC, peu importe. Fait que tu te fais une idée, tu te crées une idée de ce que tu voudrais que Star Wars soit, puis là, quand le produit sort, puis que c'est pas ce que tu espérais que ça soit, ben là, t'es déçu. Puis c'est d'où, là, créer une désillusion, parce que...
Petit à petit, hein.
C'est ça, parce que, c'est niaiseux, mais c'est comme si on se dit, Star Wars devrait faire ça pour moi. Moi, j'y suis depuis, puis c'est Disney, ils s'en foutent. Parce que Star Wars, ça a tout le temps été visé pour les enfants. Depuis le début, ça a tout le temps été plus pour les enfants. Fait que là, quand on s'attend à voir, exemple, Boba Fett, on prend l'exemple de la série Boba Fett, on s'attendait à voir Boba Fett vraiment comme un chasseur de primes, comme badass, puis que on allait le voir là... Puis c'est pas ça du tout qui est arrivé.
Ouais.
C'est
la
correct.
Rated R.
Ouais, non, mais quasiment. Là, tu t'attendais à ce que ça soit une série vraiment adulte. Là, mais, mm-hmm.
Ben, surtout avec Robert Rodriguez qui était.
C'est ça. Ouais, puis le premier épisode qu'il y avait eu dans Le Mandalorian, ben, là, ouais. Le retour ouais. De Boba Fett. Donc,
c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça la désillusion. Puis c'est pas une question, c'est pas quelque chose que Disney fait pas correct, quoi que ce soit. C'est nous.
Okay, vas-y. On va se le dire quand que nous, on a eu la chance de grandir avec ce qui est maintenant connu comme étant l'univers légende.
Oui.
Puis on n'avait pas, on se faisait pas gaver de contenu Star Wars sur toutes les plateformes multimédia qui existent.
D'accord.
Et on n'avait pas donc d'idées, on se faisait pas d'idées de qu'est-ce que Star Wars pourrait être, qu'est-ce que Star Wars devrait être.
Mm-hmm.
Parce qu'on avait juste les trois premiers films. Et quand les livres sortaient, ben ça rajoutait à ces films-là. Et puis là, avec ces livres-là qui sortaient, que ce soit pour les plus jeunes, pour les jeunes adultes ou pour les adultes, ben on montait autour de la bulle Star Wars qui existait déjà. Puis là, ben on s'était fait une idée. On avait un bel univers qui était vraiment incroyable avec des philosophies super intéressantes. Puis là, Disney sont arrivés puis ils ont dit, ben on aimerait ça avoir le tapis marchand. Donc, on va tout effacer les légendes pour récupérer Chewbacca.
Ouais. Ah ouais, c'est qui? Qui était mort, il faut le préciser dans les légendes.
Ouais, c'était mort. C'était mangé une lune sur la tête, là, on s'entend.
Des choses qui arrivent dans Star Wars.
C'est ça. Mais on a eu cette façon-là de grandir avec le contenu Star Wars, que maintenant, le contenu est déjà est comme poussé aux gens.
Ouais, c'est ça. C'est que la différence, c'est que dans le temps aussi, quand ça avait commencé, il n'y avait pas d'autres films. Il ne devait pas avoir d'autres films. C'était fini, puis le seul. De toute façon, qu'on pouvait avoir quelque chose de nouveau de Star Wars, c'était à travers les livres, les jeux.
Les Ewoks.
Ouais.
Ouais, les séries. Ouais.
Ben, c'est ça, comme tu disais, à Star, c'est que à Star, il y a le. Ben là, je pense qu'on arrive au prochain point, là, la multiplication de contenu. Il y en a partout. Il y a du Star Wars partout.
Sauf dans le jeu vidéo.
Sauf dans le jeu vidéo.
Oui, exact.
Je t'ai quand même amené deux posters de jeux vidéo.
Il m'a amené un poster de Star Wars Hunter. Pour ceux qui ne connaissent c'est un free-to-play qui va sortir sur Switch et téléphone portable. Enfin, c'est vraiment le jeu qu'on attendait.
Je suis sûr que ça va trouver son public
quand même. Mais avant de parler plus en détail au niveau de multiplication du contenu, je voulais quand même mentionner au niveau des illusions il peut avoir par rapport à nos attentes, tout ça, mais il y a aussi par rapport à une certaine ligne éditoriale quand même d'entreprise, que ce soit... Pas sûr que. Puis je veux pas qu'on tombe dans le. C'est la faute à Disney, c'est la faute à Kathleen Kennedy, etc. Parce que il y a du pour, il y a du contre. C'est loin d'être blanc ou noir.
On en sortira.
Mais il y a tout. Puis tu sais, toutes les entreprises qui font du contenu divertissement, il y a toujours eu des lignes éditoriales, etc. Il y en avait déjà dans la première trilogie originale aussi. Ça reste que celle-ci a évolué avec les changements politiques aux États-Unis. Et ben effectivement, ça a évolué. Donc, ça fait pas nécessairement l'affaire de tout le monde qui était déjà passionné de Star Wars. Fait que c'est très... Moi, je le mentionne parfois en émission, mais c'est dommage parce que petit à petit, il y a effectivement des fans de la première heure qui finissent par décrocher parce que plus capables de certains mots, certaines décisions, on va dire, éditoriales là, pour englober large. Mais, puis c'est ça, je lance pas la pierre à... T'sais, un décideur en particulier, là, parce que je pense que c'est plus un phénomène de façon plus large. C'est pas juste Disney, pas juste Lucasfilm. Mais ça reste quand même toujours crève-cœur quand on voit des gens passionnés de Star Wars depuis leur enfance qui disent « moi, j'en peux plus ». Tu sais, quand tu y penses, là, c'est sûr que ça va avec la multiplication du contenu aussi. Ça sera pas nécessairement la totalité de ce qui se fait qui va les déranger. Mais ici et là, ça finit par les affecter.
Bien, je voulais toucher là-dessus justement, Francis, parce que tu le mentionnes qu'il y a comme un mélange des deux. Là.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, oui, effectivement, il y a tellement de choses, mais je veux revenir au premier teaser de l'épisode 1. Tu sais, « Every generation has a beginning,
ouais,
has
ouais.
a new legend », tout ça. Mais quand j'étais à la Star Wars Célébration à Anaheim il y a quelques semaines, j'ai remarqué vraiment que dans le fond, c'est là qu'on est rendu. On est dans une nouvelle génération de fans Star Wars, puis le contenu est vraiment développé
pour
cette nouvelle génération de fans Star Wars-là, pas tant pour nous-mêmes.
Mm-hmm.
Puis c'est là que ça fait comme la différence. Mais quand on vient sur la multiplication du contenu, qu'il y en a trop, ben là, on se ramasse avec de temps en temps
ben,
des
c'est
jeux
ça,
vidéo.
En fait. Est-ce qu'il y en a trop?
Beaucoup, beaucoup de livres.
C'est ça, c'est une question que plusieurs commencent à se demander.
Aussi beaucoup, pour beaucoup de différents niveaux, on a des séries télé, tout le kit. Puis là, on touche à peine au système de collection. Là. On n'a pas encore touché à...
Ben, même dans le contenu, les séries comics, là, ah, quelqu'un qui achète tout, qui collectionnait, mettons, qui prenait tout, ça devient ça devient presque impossible. Là,
c'est là que, c'est là que je vais toucher un sujet qui est proche de nous, Francis, pour la littérature au niveau du projet Luminous.
Oui, la Haute République.
La Haute République. Ben là, il y a des bandes dessinées, il y a des mangas qui sont pratiquement pas trouvables. Il y a des livres jeunes adultes, il y a des livres pour enfants, il y a des livres pour adultes, il y a des bandes dessinées. Je veux dire, mon portefeuille, il y a le logo de l'Empire, là. Mais il n'y a plus une scène dedans.
Il n'y a pas le budget. Il y a pas le budget de l'Empire qui va
parce
avec.
Parce que moi, à un moment donné, j'ai beau, mais ça ne peut plus suivre. Puis quand mon budget ne peut plus suivre, ben là, ça en devient démoralisant. Puis c'est là que ça devient vraiment... aussi une désillusion parce que je peux plus suivre ma passion.
Ouais.
Puis c'est là que à partir du moment où tu perds le fil de ta passion, ben là tu décroches, puis c'est comme ça qu'ils perdent des fans beaucoup. Puis c'est ça qui est triste avec le désillusionnement des fans présentement dans le fandom. Puis j'espère que ça se passe pas pour vous, puis c'est pour ça que je suis passé à grincheux là. Parce que mon petit cœur, il aurait petit, il faut qu'il revienne gros. Merci Deborah Chow pour la fin de la série de
dernier épisode de B1.
Ça m'a fait... J'ai le petit...
Mais j'ai envie de vous entendre parce qu'on entend ça de plus en plus. En fait, dès qu'ils se sont mis à annoncer au départ, quand Disney a racheté, il va y avoir un film par année. Il y a certaines personnes qui ont dit « OK, là,
c'est trop.
Ça va faire beaucoup. L'événement sera peut-être plus aussi fort là, qu'à l'époque. »
Puis on l'a vu
avec les séries télé.
J'étais
à Sherbrooke, à la sortie de Solo. Alors, Solo, c'est sorti à une date un peu bizarre pour un Star Wars. Habituellement, Star Wars sortait à Noël, aux alentours de Noël. Solo sort au mois de... C'était quoi? C'était mai?
Non, mais ça, c'est pour ta génération. Pour notre génération, c'était au
Sherbrooke. Je suis à Sherbrooke. On est à... Donc, je fais partie aussi de la 501, donc j'étais en costume pour faire un petit peu un événement dans le cinéma. Et les gens s'arrêtaient pour demander ce qu'on faisait là.
Ouais.
On a un film Star Wars. Alors, je vous le rejoins, hein. Le film sort 3 mois après le sujet. Il y avait 3 ou 4 mois entre l'épisode 8 et Solo. Toujours pas compris non plus, moi non plus, la gestion du temps, là, je sais pas ce qui s'est passé chez Disney. Mais quand t'es arrivé à un stade où les gens se demandent qu'est-ce que vous faites là, alors qu'il y a un événement, c'est un film Star Wars qui sort, tu te dis ok, on est arrivé au niveau de Marvel où il y a tellement de films Marvel qui sortent, c'est impossible. Enfin, moi je suis pas passionné de Marvel, j'ai complètement perdu. Là on me sort des personnages qui sortent de l'espace et il faut les tous les regarder dans l'ordre, etc. Moi je suis passionné de Star Wars et en fait je me rends compte que les gens sont maintenant au même stade, c'est à dire il y avait un film qui sortait puis les gens étaient là en train de dire ah il y a un film qui sort, ouf.
Bizarre. Mais c'est ça dans le fond, c'est que c'est sorti tellement peu de temps après l'épisode 8 qui était sorti le décembre juste avant, et puis il y a tellement de fans justement qui ont été brusqués par les changements que Rian Johnson a amené à l'univers qui ont fait Solo ça sera pas bon, puis ils sont comme tirés dans l'œil juste avec le coude jusqu'au biceps dans l'œil parce que finalement c'est un excellent film.
Donc, c'est copyrighté comme expression, hein, si jamais vous voulez la
reprendre. Je n'aurais même pas la répéter.
Je voulais juste dire, tu sais, puis je pense que c'est Seb qui l'a mentionné juste avant. Nous autres, tu sais, quand il y a eu la trilogie originale, la prélogie, c'était un film aux 3 ans.
Lucas dit qu'il faut 10 ans pour faire une trilogie.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis on savait, tu sais, les films étaient annoncés d'avance. On savait, puis là, comme tu dis, Francis, quand Disney est arrivé, puis on dit, on fait un film par année. On était comme, oh! Tu sais.
Mais là, c'est pire que ça en ce moment avec le contenu de séries télé. Pire, évidemment, pas dans le sens que j'aime pas avoir du contenu, mais ça en fait à suivre, là, tu sais. Puis il y a un aspect que vous n'avez pas mentionné, c'est que, parce que oui, on peut. Évidemment, la comparaison Marvel revient vite, ou tu sais, on pourrait mentionner Seigneur des Anneaux, là, c'est reparti, tu sais, Star Trek, etc. Mais dans Star Wars, avec le concept de canon unique, qui fait que la moindre BD, le moindre livre, le moindre jeu vidéo, etc., tout s'inscrit dans un seul canon, ben là, les gens, s'ils n'ont pas soit le budget ou le temps de tout lire, tout ça, ben il leur manque du contenu. Puis là, on leur dit « Ouais, mais le film, là, c'était pas illogique, c'est parce qu'il fallait que tu lises tel livre. » Ouais, mais là...
on ne pourrait pas avoir la vie, on est capable de suivre le film.
Et là, c'est ça. Dans l'épisode 7, tu découvres dans je ne sais pas combien de livres lesquels c'est.
Ouais.
C'est pas Coruscant qui explose.
Bien ça.
Mais en fait, on le sait parce que c'est dans un livre.
Mais c'est ça, c'est un phénomène que, par exemple, chez Marvel, oui, il y a une espèce de canon, mais ça reste qu'il ne il se borde vraiment pas du tout de ne pas respecter ce qu'il y avait déjà dans les BD, etc. Alors que Star Wars, au moins, il y a une apparence de respect. Là. Je sais que des fois, ça crée des petits problèmes, mais il reste que théoriquement, c'est un seul canon. Fait que ça finit par faire du volume. Puis comme tu dis, le projet de la Haute République, faut avouer, moi, j'étais très enthousiaste. Mais ça a été quelque chose, suivre ça, de tout lire, c'est... tout prendre, c'est du contenu. Puis le pauvre nous, en plus, analyste de Star Wars, tout analysé et tout.
puis c'est là que c'est triste, parce qu'il y a aussi tellement de contenu qui sort que les gens ne sont plus capables de suivre, que c'est Disney qui se tire eux-mêmes dans le pied, parce que les gens ne sont pas capables d'aller chercher ces produits-là.
Ouais.
Donc, soit qu'ils ne les achètent pas, ou malheureusement, ils se les procurent d'autres manières.
Parce que j'ai plus le contexte exact, mais on a fait une émission pour couvrir toute la première phase là, de la Haute République. Et on va faire une mini-pause, le temps de starter le...
Ouais, juste pour vous rappeler, quand il vous parle de Haute République, c'est un projet Disney qui consistait à couvrir la période Haute République avec des BD, des livres et autres choses. Donc, ils ont fait ça en phase.
Qui est 400 ans avant l'épisode 1.
200
ans avant l'épisode 1, pardon.
Et donc, en fait, ils sortaient comme ça des livres qui parlent d'une petite période, puis après, il y a une phase 2 où ils parlent de la période d'après, etc.
ouais, c'est ça.
Sauf qu'ils ont un peu exagéré sur le nombre de livres et la vitesse de parution, ce qui fait que même nous qui sommes passionnés, on s'estime être passionnés, alors on ne reçoit pas les livres gratuits, donc ça enlève un autre problème qui est que notre compte en banque diminue vite. Puis, en fait, c'était impossible. On sortait un épisode où on analysait les livres. C'était quoi? Au moment où on avait un ou deux épisodes par semaine.
Je ne sais plus. Danny pourrait nous le dire, mais effectivement, dans les commentaires du public, là, trop d'épisodes littérature est revenu. c'est ça.
On s'en excuse. C'est pas ça qu'on veut, mais c'est ce qu'on veut faire pour bien couvrir le contenu. Donc, vous pouvez quand même... Vous n'êtes pas obligé de nous les écouter tout le temps.
Non, écoutez, Victor.
On vous pardonne. Je vais l'écouter comme deux semaines après.
Pas assez d'épisodes jeux vidéo. Mais...
Oui, c'est ça.
Ça faudrait qu'il en sorte. Mais justement, sur ce qui sort beaucoup, ça nous amène au point suivant. C'est au niveau de la sur-offre. Là, on a parlé sur-offre de contenu, là, d'histoire. Mais en termes de produits dérivés, puis pour les collectionneurs, c'est hallucinant, là. En fait, Seb a commencé les émissions spéciales collector qui fait le topo de tout ce qui sort dans le mois, là, ou ce qui est à venir, en fait, dans le mois suivant. Et moi, j'en reviens pas, c'est hallucinant la quantité.
Puis, écoutez, là, je tiens à vous le dire, on essaye de trouver des choses qui vont être vraiment comme parution mensuelle. Mais là, de plus en plus, on remarque que Hasbro, pour sauver de l'argent, font juste des précommandes. Lego s'en vont vers les précommandes aussi beaucoup, avec quelques annonces de produits qui sortent. Puis, la chose qui est le plus redondante, ben c'est notre ami Dominique de Star Wars Artifact qui nous parle des choses qui apparaissent sur Batuu, donc à Disney World puis à Disneyland, avec tous les produits dérivés de Star Wars qui apparaissent là-bas. Puis c'est comme absurde. À tous les mois, il me sort une liste là, qu'il faut qu'on réduise. Ben,
juste les sabres laser, il en sort un par mois.
Ben, c'est ça. Là, t'sais, c'est...
À 350$ l'unité.
Vous connaissez la théorie Hello Kitty? Alors, je vous invite à faire ce jeu, vous allez sur Google Images, vous tapez Hello Kitty, vous mettez n'importe quoi derrière, ce produit existe. Avec Star Wars, on s'en approche.
Écoute, on avait quand l'épisode 7 a été annoncé, il y avait des bananes et des oranges avec
Star Wars dessus.
D'autres sont encore un partenaire de Disney.
Ouais. Ça se garde bien en collection, ça vieille. Parce que des fois, on voit les gens qui ont gardé des boîtes de céréales épisode 1, là, tu sais.
Mais
là,
des fruits.
Tu parles de collection, sur les fans de Hasbro, ceux qui collectionnent, si on prend la Black Series. Mm-hmm. Oui, pour ceux qui connaissent, ceux qui collectionnent les figurines, c'est les figurines 6 pouces de Star Wars qui existent depuis quoi, 2013?
2015, un peu avant le rachat. Hein?
Ouais.
Puis je ne sais pas ceux qui ont suivi depuis le début, mais ces figurines-là coûtaient 20$. Puis c'était une figurine 6 pouces. À Star, le même type de figurines sont rendues quoi, 35-40$. Ça a quasiment doublé de prix en quoi, même pas 10 ans. C'est complètement... C'est difficile pour les fans, après ça, d'essayer de suivre. Puis surtout ceux qui veulent avoir toutes les figurines, parce que
t'as pas le budget.
C'est ça.
Arrêtez d'acheter.
Il y en a qui continuent d'acheter, mais il y a vraiment des gens, puis c'est arrivé récemment, il y a quelqu'un qui fait « Ah, je me suis acheté tout ça », puis j'étais comme... Mais travaille dans quel domaine? Parce que moi, je veux aller travailler dans ton domaine parce que je veux avoir tout cet argent de lousse là.
Mmh. Ben, ne serait-ce... tu donnais l'exemple Lego, là.
Ouais.
Quelqu'un qui veut tout ce qui est Lego, ouais, Star Wars, ça, en ajoutant les UCS, là, qui sont les méga sets, très, très chers. Je veux dire, non, il y a le budget, mais où tu vas mettre ça?
Ouais.
T'habites dans un entrepôt, là? je veux dire, c'est...
Mais bref, si vous voulez, je vous invite à regarder Danny en arrière, il va vous le confirmer parce que Danny est venu chez moi, il a vu de quoi ça a l'air. C'est un 3,5, mais c'est un entrepôt.
Ouais, un mini entrepôt.
Si vous voulez savoir combien on rentre dans le Lego dans un 3,5, vraiment, c'est très impressionnant.
On s'entend encore dans les mois.
Je m'attendais pas et pourtant on m'avait préparé psychologiquement avant que j'y aille. Non.
C'est un choc, hein? Ouais, post-traumatique.
Si vous voulez, je vous invite à aller voir l'émission qu'on a faite sur la construction du R2-D2, qui était censée être une émission rapide. Finalement, ça a duré 5 heures.
Oui.
Puis il y a un mur de Lego derrière moi. Puis c'est ça. Ça, c'est tout des Lego que j'ai pas encore eu le temps de monter.
Ça m'arrive en me disant, hey, on fait un speed. C'est quoi? C'est speed building du Lego R2-D2. Moi, dans ma tête, je fais, bon, monter un Lego, ça va.
Mais écoute,
le naïf. Il y avait beaucoup de
petits le naïf. 6 heures de montage, 6 heures de live, je n'en peux plus, vous pouvez plus. Et lui, il était là, il fait non, mais ça sera rapide. Ouais, 6 heures pour monter.
Oui, Seb qui place toutes ses pièces.
Oui, et encore, il l'a fait version rapide.
Ouais, oui.
Parce que Sébastien, ouais, quand il monte, il met les petits. Vous savez, sur les pins des Lego, vous avez des petits logos Lego. Voilà. Alors, il y a des gens, comme lui, qui les mettent dans le même sens. Ouais. Tu vois comment les gens te jugent?
Okay, ouais. Jugez-moi autant que vous voulez, mais ça ralentit le montage et ça me permet de profiter plus de l'expérience.
C'est pas assez long.
Mais écoute, ouais, si on revient sur les collections, on parlait d'Hasbro. Je sais pas s'il y a des collectionneurs dans la salle, là, mais Hasbro, ils ont ce qu'on appelle Haslab, qui est, ce qui est dans le fond, qui est comme.
Il y a un H, hein, c'est.
Haslab.
Haslab.
Haslab, whatever. Haslab.
C'est Haslab, pas Haslab.
Haslab, c'est la salle à côté. Qui est comme un peu un genre de Kickstarter, si on peut dire. Donc, c'est de cette façon-là qu'il réussit à trouver le budget pour des projets. Donc, il y en a eu deux de Star Wars. Il y a eu un Rancor pour la Black Series, donc un Rancor pour les figurines 6 pouces. Qui a été fait au mois de novembre, décembre, qui a échoué.
Hein,
parce que, écoute, c'était 400 US pour un Rancor que tu peux, quoi, 100-150 à peu près.
Mm-hmm. Ouais.
Puis ça venait avec aucune figurine au début. Là, ils ont rajouté des figurines vite qui n'étaient pas dans les boîtes. Ils mettaient la figurine dans un sac de plastique. Donc ça a échoué. Puis là, en ce moment, ils ont un sabre laser Black de Series Riva. De Riva qu'on a vu dans la série Obi-Wan. Avec ça aussi, je pense que c'est fini. Puis ils n'ont pas réussi à atteindre le...
Non, ben c'est trop.
Puis ce qui est triste, puis c'est ça qu'on parlait pendant l'émission Collector, c'est qu'il y a une équipe de gens qui ont travaillé derrière les designs de ces produits-là pour les proposer aux fans. Puis là, les fans font comme...
Non.
Non.
Ben, c'est bien.
Mais ils font pas... Non, c'est pas intéressant. Ils font comme... Ah, OK, l'idée est vraiment le fun, mais t'as-tu vu le prix?
Ouais.
Non. Puis c'est là le gros problème, c'est qu'il y a vraiment, on voit corporate greed là, de la part de Hasbro à un certain point. Puis oui, je comprends le matériel et tout, puis surtout dans la période dans laquelle on est avec l'inflation puis les choses qui se rendent jusqu'à nous. Mais c'est comme...
Est-ce qu'il va décevoir aussi?
Faut arrêter de capoter. Là. Hasbro, vous êtes une compagnie de jouets pour enfants. C'est vous qui faisiez des G.I. Joe. En 1969, vous aviez un truc de Astro Light.
Ouais, une autre époque. Écœurant,
là. C'était un Light Bright 3D. Puis là, vous nous sortez des figurines qui sont censées être pour enfants. Puis je m'excuse à nos amis les plus jeunes dans la salle, justement, qui peuvent même pas se permettre de jouer avec des figurines de 6 pouces puis de faire des beaux dioramas de figurines de 6 pouces. Ils n'ont pas les moyens de se payer ça.
Ah, les parents n'ont pas les moyens de payer ça.
Non, mais c'est 3 mois de faire la vaisselle pour les parents, puis encore là, ça marche pas.
Arrête, on a tous reçu 500 $ du gouvernement Lego. Ça en fait les figurines.
Ah. Bon, mais je veux mentionner quand même aussi le phénomène, je sais que GF, ça purge justement quand on parlait des déceptions, le phénomène des repaints aussi dans les objets de collection, qu'il ressort un nouveau casque, une nouvelle figurine, en fait c'est la même qui ont changé de couleur.
Ouais, c'est ça. Fait que le meilleur exemple, c'est les casques Black Series, donc ils ont fait les casques de Stormtrooper, de Mandalorian, ben c'est ça. Si on prend l'exemple de Mandalorian
en particulier.
Écoute, ils ont fait... peut-être quoi, 6? Sont rendus à 6 cases de Mandalorian?
Tu veux dire, c'est la version Boba Fett, là?
Ben, Starfall, c'est le même moule, mais c'est la peinture qui est différente. Puis là, ils te le revendent comme un autre casque.
Stormtrooper aussi, je pense qu'on est dans le 6 à peu près. Puis là, ils ont annoncé un autre, là, le lanceur de patates, comme on disait dans l'armée, là, le mortier, là. Le casque avec une ligne jaune.
Ben, c'est ça.
Attends qu'il te sorte le clone.
Non, mais c'est ça.
Le clone, c'est formidable. Vous faites un triangle et vous faites toutes les couleurs que vous pouvez. Vous faites à chaque fois un bataillon clone.
Non, mais tu dis, mais c'est ça. C'est ça qu'on veut depuis le début. Donnez-nous des clones, donnez-nous les TIE Fighter pilots, donnez-nous. Écoute, il y en a
non,
plein de
casques. Ce qu'on veut depuis le début, c'est un casque blanc avec un set d'autocollants qu'on peut faire nous-mêmes notre casque qu'on veut.
Oui.
Mais, autant que ce soit pour les clones, que pour les Stormtroopers, que pour les Rebel X-Wing pilots. Ouais.
On va taper.
Mais je vois le temps qui passe, je voulais quand même, c'est ça, la conclusion pour les objets dérivés, objets de collection, tout ça, je pense que c'est parce qu'on n'a plus le choix, là, collectionneur de peu importe quoi, il faut faire des choix.
Ouais, c'est ça.
Il faut vraiment, à ce moment-là, se mettre à choisir, parce que quelqu'un qui dit « je collectionne tout de peu importe quoi, là, telle gamme », ça devient surréaliste, non seulement budget, temps, tout ça, mais puis espace, mais même réussir à mettre la main dessus, hein, entre les exclusivités de, tu sais, pour un Européen, là, ce qui sort en Floride puis en Californie. Voilà. Sinon, rapidement, je veux qu'on parle de toxicité du fandom.
Oui.
C'est quelque chose qui est redondant, qu'on entend tout le temps parler. Ah, le fameux fandom Star Wars est si... Moi, je veux vous entendre.
Toxique.
Est-ce que c'est si toxique que ça, le fandom Star Wars?
Quand on est rendu au point où Ewan McGregor prend comme 5 minutes dans son char pour parler à tout le monde puis faire comme « Non, ça se fait pas ce que vous avez dit. »
Ben, en fait,
un exemple.
Est-ce que le fandom Star Wars est toxique? Non. Est-ce que les réseaux sociaux sont toxiques? Oui. Malheureusement, le fandom Star Wars est sur les réseaux sociaux. En fait, le concept d'avoir... Alors, il y a plusieurs types de toxicité. Vous avez celui qu'on entend le plus parler, c'est-à-dire, là, on a Obi-Wan qui est sorti, puis vous aimez peut-être pas l'actrice qui fait la méchante. Alors, du coup, vous allez sur les réseaux sociaux décharger votre haine. Et puis, comme les réseaux sociaux sont formidables, vous pouvez quasiment la contacter en direct. Quand vous êtes de l'autre côté, que vous êtes l'actrice, que vous recevez 1, 2, 3, 400, 500, 10 000, 11 000 messages, il y a un moment, ça... on a beau dire, on a du cuir autour de la peau, là, etc., on a un bouclier, etc., il y a un moment, je pense que ça atteint quand même, et ça atteint. Donc, effectivement, on a eu beaucoup de cas, on a eu le cas à l'époque, et ça, c'est pas récent, hein. Épisode 1, Jar Jar Binks.
Ouais, l'acteur.
L'acteur de Jar Jar Binks en a pris plein la tronche.
Puis il n'y avait pas les réseaux sociaux dans le temps.
Il y avait moins les réseaux sociaux.
Puis au moins, Ahmed Best a quand même réussi à revenir. Jake Lloyd est encore présentement suivi psychologiquement à cause de tous les problèmes
Jake
de toxicité.
Jake Lloyd, c'est celui qui fait le petit Anakin Skywalker dans l'épisode 1. Petit, je ne sais pas pourquoi je le présente comme ça, il est un petit peu plus. bon, vous avez compris l'idée.
Black Series,
petit. En figurine, il était grand comme ça. Voilà. Et en fait, Jake Lloyd, le problème, c'est que... Alors, ce n'est pas du tout les réseaux sociaux, c'est à l'école. Il n'a pas été bien accompagné et il s'est fait beaucoup maltraiter à l'école par ses camarades de classe qui... sûrement à cause de la jalousie, se moquer de lui constamment. Et puis, Jack Lloyd, il avait quoi, 8 ans, 9 ans à l'époque, hein,
9 ans.
À 9 ans, on n'est pas prêt à recevoir autant de haine, de harcèlement. Le harcèlement scolaire, c'est pas récent, malheureusement. Donc,
je t'en rejoins, c'est ça, sur l'aspect, tu sais, oui, là, les médias sociaux, c'est toxique, tout ça. Mais sur l'aspect, est-ce que le fandom Star Wars est si toxique que ça? Quand j'entendais récemment que Lando Norris en Formule 1 et même sa conjointe reçoivent régulièrement des menaces de mort, alors que Lando Norris, pour ceux qui ne suivraient pas, c'est le Kalinours de la Formule 1. Là, tu te dis, mais pourquoi lui? Il n'est pas en position de tête, il n'y a pas une grosse compétition.
Ben, c'est pas que le fandom Star Wars qui est toxique. Il y a de la toxicité
c'est un
dans
phénomène,
tous les fandoms. Puis oui, c'est un phénomène qui est, comme Julien l'expliquait, qui est accentué par justement la présence des médias sociaux et la facilité des gens de s'exprimer. Mais toute opinion n'est pas nécessairement bonne à dire. Puis oui, il y a des choses que vous devriez définitivement garder pour vous. Telle fut la preuve, je vais mentionner Gina Carano, là, qu'on a mis.
Oui, qui a manqué plusieurs belles occasions de garder ça.
Elle a fait un commentaire de trop, puis je le sais qu'il y a probablement beaucoup de gens qui vont vouloir me foutre une baffe, là, mais quand vous prenez son point de vue à elle, puis vous prenez le temps d'analyser ce qu'elle a écrit, puis pourquoi elle l'a dit, ça fait du sens, elle se faisait persécuter, puis elle s'est sentie comme ça, elle a fait un très, très, très mauvais exemple de comment est-ce qu'elle s'est sentie persécutée. Mais ça lui a coûté son travail, ça lui a coûté le personnage, ça nous a coûté le personnage, qui était quand même quelqu'un de très intéressant à développer, puis malheureusement, mm-hmm. puis aussi, au final, une série complète de...
Ouais, c'est une rumeur, mais ouais.
Ouais. Mais tu vois, t'es pas obligé d'aller aussi loin, en fait. Je vais prendre moi comme exemple. Je pense que vous avez compris que j'étais français à mon accent. Si vous n'avez pas compris, c'est pour ça, du coup. donc moi, je fais maintenant une couple d'années, je fais 8 ans que je suis au Canada. J'étais sur un groupe Facebook, ce qu'on appelle le groupe Star Wars Geek Québec, voilà, c'est fait, qui est un groupe formidable, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est juste que c'est régulier, c'est constant. Il y a toujours quelqu'un qui a un trait d'humour. Vous allez chercher pourquoi. Qui vient parler de la traduction française de 1977? Ah, la bonne blague. Le problème, c'est que la traduction française de 1977 a été faite en 1977. C'est-à-dire à l'époque où Star Wars n'existait pas. Donc, personne ne savait ce que c'était Star Wars et où il y avait des concepts de traduction un peu très poétiques.
Ou très littéral.
Très littéral. Alors oui, effectivement, dans l'épisode 4, on entend Chic Tala au lieu de Chewbacca, qui est la traduction littérale, en fait, de Chewbacca, hein, on ne va pas se le cacher. Millennium Condor, on n'a toujours pas bien compris, mais bon, Faucon Millennium Condor, il y a un côté artistique.
Mon préféré, C3PO, puis
Z6PO, qui était dû à un problème labial à l'époque, ils ont voulu régler ça comme ça, parce qu'il faut quand même vous rappeler que quand vous faites une traduction faite pour un doublage, il faut que ce qui est dit, ça correspond au mouvement des lèvres de l'acteur, et à l'époque, ils avaient considéré que Z6PO permettait de plus suivre l'acteur. Bon, on va pas faire toute la traduction, reste que c'est fait en 1977, on est en 2022, il serait temps de faire son deuil, et pourtant, vous avez quand même régulièrement quelqu'un qui vient faire une blague. Puis alors, on n'a pas encore parlé de Dark Vador,
ouais.
Je ne suis incapable de prononcer la version, et d'ailleurs, c'est pour ça que Dark Vador existe, c'est parce que le TH est imprononçable pour un Français de France, parce que ce n'est pas un son qu'on a. Vous êtes en Québec habitué parce que vous avez les trois quarts du pays qui sont anglophones, plus... des envahisseurs,
oui, mais un peu embêtant. On va se le dire que les Français, vous apprenez quand même l'allemand là, à l'école, donc avec les théâtres.
Non, messieurs, là, on va vous arrêter là, parce que là, on part dans d'autres débats.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, mine de rien, moi, j'ai arrêté d'aller sur ce groupe parce que tous les trois mois, il y a quelqu'un qui va faire une blague, puis à un moment, ça commence à t'user, parce que c'est une blague récurrente. Il y a toujours quelqu'un qui vient la faire, on ne comprend pas.
Ouais, je me suis mis une alarme, tu comprends, juste pour toi.
Parlant d'user, Francis.
Ouais, dans le fond, en conclusion, puisque je vois qu'il nous reste 5 minutes, messieurs, quel avenir pour le fandom Star Wars? Vraiment une érosion qui va continuer, une renaissance?
Je pense qu'on est rendu à un point que, comme tu dis, il y a une panoplie de produits, panoplie de médias de disponibles. C'est une question de choix. Tu prends ce que tu recherches, puis tu laisses de côté ce que tu ne veux pas, ce que tu ne recherches pas, sans avoir à critiquer le contenu. Je veux dire, si c'est pas pour toi... S'ils décident de faire une série, mettons, pour les jeunes, moi, en tant qu'adulte, j'ai pas à chialer là-dessus. C'est pas moi le public cible, c'est pas moi que ça recherche. Donc, moi, je vais trouver mon contenu qui me tente, puis le reste, je veux dire, on est rendu à ce point-là. Star Wars, c'est tellement grand, c'est vaste, c'est multigénérationnel. Fait que t'as pas le choix, là.
Justement, pour le multigénérationnel, moi, j'ai l'impression qu'on va assister à une érosion avec le temps. Parce que de plus en plus, Disney se tire dans le pied, puis Lucasfilm se tire dans le pied avec trop de contenu, trop de choses, et puis on tire trop l'élastique des fans. Les fans sont plus capables de suivre, donc ils vont finir par passer à d'autres passions qui sont capables de célébrer puis de suivre plus facilement. Puis on va voir ça là, dans les prochaines années. Est-ce que ça va être visible largement? Non, je ne crois pas, parce qu'il y a tout le temps justement des nouvelles générations qui reviennent pour justement redonner du regain au fandom de Star Wars. Mais je peux vous dire clairement que oui, il y a de l'érosion présentement dans le fandom Star Wars.
On voit les gens autour de nous qui lâchent plus en plus. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'on vit dans une époque incroyable où on est très alimenté, trop alimenté en loisirs.
Le mot est gavé.
Gavé, ouais, on peut aller jusqu'au terme gavé, mais regardez, aujourd'hui, si vous êtes abonné à Netflix, Disney+, et il y a quoi d'autre
Amazon Prime,
Apple TV.
Bon, bref, voilà, je suis déjà gavé. Mais en fait, vous passez plus de temps à chercher le film que vous allez regarder ce soir que regarder le film.
Ouais.
Alors, on est tous dans le même truc, me dites pas non, ou alors c'est que vous êtes très très fort. Et c'est pareil, Star Wars aujourd'hui doit se battre contre tout, et donc la solution qu'ils ont en fait, c'est d'alimenter comme des fous furieux, sauf en jeu vidéo. Étrangement, comprenez un petit peu mon problème.
Prenez-moi, mais je voulais avoir Star Wars mourir comme legacy.
Oh, c'est une bonne question.
Est-ce que vous voulez voir Star Wars mourir avant qu'on meure?
Non, mais parce qu'il y a vraiment la place pour ces espèces de... est-ce qu'il y a encore la place pour ces legacies qui durent sur des générations et des générations et des générations? Est-ce qu'on est prêt à laisser mourir cette idée-là?
On était prêt à la laisser mourir en 2005. Okay, quand c'était supposé finir, à ce moment-là, ça devait être la fin. Fait que je pense qu'on avait fait une croix dessus. On se disait, OK, ben, il va y avoir des livres, des jeux, puis c'est tout.
Je n'ai pas ultra hypé, moi, par la nouvelle trilogie quand elle a été annoncée. Mm-hmm. J'étais content d'avoir vu Star Wars parce qu'on n'avait rien. Mais pour moi, j'avais fait la boucle. Alors, j'étais content d'avoir. J'avais content d'avoir un peu de livres ou de choses comme ça, mais il y en avait beaucoup moins. Si demain Star Wars devait s'arrêter complètement, c'est sûr que. Bon, si c'était vraiment brutal, là, ça ferait on va pas se le cacher, ça ferait un petit manque, parce que bah, du coup, du jour au lendemain, une de mes plus grosses passions, sinon ma plus grosse passion, disparaît. Mais la voir s'arrêter, oui, non. Moi, je pense que je serais prêt à la voir s'arrêter. Je préférerais qu'elle s'arrête avant qu'elle devienne trop...
Puis même si elle s'arrêtait présentement, il y a tellement de choses sur lesquelles les fans peuvent vivre pour encore des années mm-hmm. qu'ils n'ont pas encore découvert, que la passion ne serait pas perdue. Là. Absolument.
Si vous n'avez pas commencé à lire les romans, vous avez 20 ans de lecture de retard.
C'est ça.
Mais c'est une excellente question. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour prendre plus de questions du public, mais parce qu'on a la salle encore pour une minute théoriquement. Ouais. Mais on va rester quand même si vous voulez venir discuter avec nous. C'est toujours très agréable à l'extérieur. Rapidement, je veux vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. C'est vraiment plaisant. Une bonne main d'applaudissements à tout le monde. Je vais vous rappeler aussi rapidement donc d'aller faire un tour si vous voulez aider le podcast, l'équipe, sur la boutique de Star Wars en direct. Et on remercie nos partenaires Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya, et j'en oublie plusieurs, mais bon, on est pressé dans le temps.
Star Wars Artifact, Star Wars Littérature Québec. Que le fan soit avec toi. Notre cher ami Marc Joly Corcoran qui est dans le fond de la salle. 17h45 ce soir, dans quelle salle? Ici même, 17h45, ne manquez pas ça.
On parle du costume de Boba Fett ici aussi, si jamais vous voulez.
Bon. Excellent, donc voilà, merci à tous d'avoir été présents. Et que la force soit avec vous.
On a un fan ici qui nous suit ardemment sur les réseaux sociaux parce qu'il porte son chandail. Et juste à cause de ça, mon cher monsieur, je vous offre un merveilleux cadeau souvenir de la Star Wars Célébration. Donc des très belles affiches qui viennent directement de là-bas. Donc. N'oubliez pas, si ce genre de t-shirt vous intéresse, celui comme celui que porte. Nous
portons
tous un t-shirt de Star Wars.
Ouais, parce que j'en ai déshabillé. Ah ouais,
GF, là. Alors, vous pouvez passer sur starwars.direct/boutique et puis vous allez voir toute la gamme de produits de merveilleux.
Pour venir d'où va l'argent, ça va direct dans les serveurs.
Et si vous voulez nous attendre juste à l'extérieur, j'ai aussi des super macarons Hello de la série Obi-Wan Kenobi qui sont comme mon t-shirt. Donc, je vous donne ça à l'extérieur.
Voilà.
Merci tout le monde.
Merci tout le monde.
Bonne journée à tous.
Merci.
Bon Comic-Con.